Le cauchemar, à nouveau. Depuis 1990, les Béroutins avaient oublié, ou fin d'oublier. Et soudain, au cœur de la ville, ce spectacle d'automobiles calcinées, de cadavres pantelants au milieu de la chaussée, comme un mauvais réveil. Mais après le drame, il y a eu la ferveur, le sursaut d'un peuple qui ne veut plus revivre les horreurs d'une guerre civile qui a ensanglanté leur pays pendant 15 ans. Car au-delà de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, les Libanais essayaient d'exorciser ce retour de la violence et leur propre peur. D'autant que l'homme qui venait de périr dans ce terrible attentat était justement celui qui avait présidé à la reconstruction de la capitale, balayant les ruines et truffant la ville de luxueux buildings. Alors, le Liban, convalescent mais pas guéri, risque-t-il de replonger dans la violence? Plusieurs signes inquiétants, comme la recrudescence des attentats en territoire chrétien, peuvent le laisser craindre. Car même si les troupes syriennes commencent à se replier, la question communautaire demeure. Et l'incroyable puzzle religieux libanais est toujours porteur de menaces. L'occasion pour M. X de revenir sur les origines de la guerre et sur l'implication des puissances étrangères qui ont manipulé et armé les différentes factions.
Autant vous le dire tout de suite, il est bien difficile de voir clair dans cet épineux dossier tant les uns et les autres se sont efforcés de compliquer une situation qui n'était déjà pas si simple.
Le pluralisme communautaire.
Mais un pluralisme qui ne doit pas faire illusion. Contrairement à ce que prétendent certains Libanais chrétiens, il n'existe qu'un seul peuple au Liban, un peuple arabe.
Alors, pourquoi ces chrétiens, justement, soutiennent-ils le contraire?
Pour se différencier de leurs concitoyens musulmans. Ces maronites affirment qu'ils sont les descendants des phéniciens ou encore des croisés européens. Mais pour tous les gens sérieux, c'est de la fumisterie. Et les ethnologues font remarquer que tous les Libanais, à la seule exception de la communauté arménienne, partagent la même langue, la même culture et les mêmes structures de parenté. Enfin, passons.
Oui, d'accord. Mais alors, comment ce pays, qu'on a longtemps appelé la Suisse du Proche ou du Moyen-Orient, je ne sais plus, a basculé dans la violence?
Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais il faut bien dire que le passé libanais est très tumultueux. Ne remontons pas plus loin qu'au XIXe siècle.
C'est-à-dire à l'époque de la domination turque.
Oui. Les chrétiens maronites qui jouissent d'une relative autonomie forment alors la communauté la plus importante du pays, où l'on trouve aussi d'autres églises chrétiennes, mais aussi des sunnites, des chiites et des druzes.
En fait, ce nom, la maronite...
Ça vient de Saint-Maron, un ermite du 5e siècle qui est à l'origine d'une secte chrétienne longtemps persécutée par l'Empire byzantin. Les maronites se sont essentiellement fixés sur le mont Liban, une véritable forteresse naturelle. Mais revenons au 19e siècle. Ouais. La montée en puissance des maronites et leur expansionnisme croissant irritent les druzes.
Alors, ceux-là, qui sont-ils?
Alors ça, c'est une secte musulmane, hérétique, chassée autrefois d'Égypte et qui a en particulier trouvé refuge dans la montagne libanaise du Chouf. Mmh. Ce sont des guerriers très disciplinés qui s'interdisent tout prosélytisme.
À la différence des chrétiens et des autres musulmans.
En effet. À partir de 1820, la rivalité entre les maronites et les druzes prend une tournure violente. Les chrétiens estiment en effet qu'étant les plus nombreux, ils ont vocation à être les maîtres du pays. Et à plusieurs reprises, on observe des révoltes druzes. Mais en 1840, c'est une véritable guerre civile qui va éclater et ruiner le pays. Une guerre qui va durer 20 ans et qui est d'une certaine façon la répétition générale de ce qui se passera un siècle plus tard.
C'est-à-dire ?
Eh bien, comme lors de la guerre qui commencera en 1975, les Libanais, incapables de régler entre eux leurs différends, vont s'en remettre à l'étranger. Ce qui leur permettra ensuite de prétendre qu'ils sont les victimes de rivalités internationales.
Alors qu'ils ont été les premiers à faire appel aux puissances étrangères.
Exactement. Donc au XIXe siècle, les maronites demandent le soutien de la France. Les druzes, celui de la Grande-Bretagne. Quant aux orthodoxes, ils s'en remettent à la Russie.
Et la France, là, pourquoi?
Notre pays s'est toujours traditionnellement considéré comme étant le protecteur des chrétiens d'Orient.
Et la Turquie?
Elle en profite naturellement pour tenter de mettre fin à l'autonomie de fait des maronites en exacerbant les rivalités religieuses. Enfin, quoi qu'il en soit, après une vingtaine d'années de massacres, les Français, plus ou moins soutenus par les autres puissances étrangères, débarquent au Liban.
Pour remettre de l'ordre.
Oui, et c'est presque naturellement une victoire pour les maronites qui se voient concéder une province autonome autour du Mont Liban sous l'autorité théorique d'un gouverneur ottoman de confession chrétienne. J'ajoute car ce n'est pas anodin que ces conflits religieux ont été aussi accompagnés de révoltes contre les seigneurs de la guerre qui régnaient en maître sur les populations.
Les féodaux.
Oui, qui joueront plus tard un rôle particulièrement néfaste. En tout cas, après cette tragédie qui a causé la mort de dizaines de milliers de Libanais, le pays va vivre un véritable âge d'or.
Oui, donc la prospérité.
C'est ça. Et en un demi-siècle, le Liban, selon certains historiens, passe du Moyen-Âge au modernisme.
Ah, c'est peut-être un peu exagéré, non ?
Certainement, car les mentalités n'évoluent pas au même rythme que le développement économique. Et surtout, cette évolution est très contradictoire. On note, par exemple, un renouveau littéraire de la langue arabe. Mais en même temps, les relations étroites qui sont nouées avec l'Europe et l'Amérique renforcent le mépris des chrétiens pour les musulmans.
Donc vous avez parlé d'un demi-siècle, hein, l'âge d'or. Alors, quand arrive la guerre de 14-18 ?
Eh bien, les Turcs qui ont pris parti pour l'Allemagne mettent fin à l'autonomie du Mont Liban.
Car les Maronites sont soupçonnés d'avoir des sympathies pour les Alliés.
Et surtout pour la France. Le Mont Liban est donc assiégé et ses habitants littéralement affamés. On estime alors que 200 000 Libanais maronites périssent, soit de faim, soit de maladie. C'est très important, parce que ça nourrira le sentiment de persécution dont font souvent preuve les maronites.
Et après la Grande Guerre, alors ?
Ah ben, c'en est fini de l'Empire ottoman. Ouais. Et déjà, les vainqueurs se sont partagés les dépouilles avant même la fin de la guerre.
Oui, les fameux accords Sykes-Picot, c'est
ça ? Oui, au terme de ces accords entre la France et la Grande-Bretagne, les États du Levant, comme on les appelait, c'est-à-dire le Liban et la Syrie, doivent revenir à la France.
La France, puissance mandataire.
Et dès 1920, des troupes françaises, sous les ordres du général Gouraud, entrent au Liban. Après s'être débarrassé de l'armée du souverain hachémite Faisal, à qui les Britanniques avaient promis le trône de Damas, malgré les accords qu'ils avaient signés avec la France 1916.
Perfide Albion, en
fait. N'est-ce pas, oui, non. Donc, après avoir éliminé l'émir Faisal, Gouraud crée l'État du Grand Liban.
Alors, ça comprend quoi, ça ?
Le Mont Liban, bien sûr, plus des territoires au sud et au nord, et la plaine de la Bekaa. Ce faisant, Gouraud sépare le Liban de la Syrie.
Qui n'avait pourtant jamais été uni, hein.
Sauf sous le règne éphémère de Faisal. Et ce concept de grande Syrie laissera des traces dans les esprits. Et
jusqu'à aujourd'hui.
Vous avez raison, mais on en reparlera.
Ouais.
Il se créera même dans les années 20 un parti populaire syrien qui militera pour la réunification. Gouraud, chrétien militant, ne manque pas de favoriser les maronites et doit aussi faire face à plusieurs révoltes druses et musulmanes.
Il réprime.
Bien évidemment. Ensuite, le successeur de Gouraud va institutionnaliser le système libanais. Rien de très différent par rapport à ce qui existait du temps des Turcs. Chaque communauté gère, comme elle le veut, le statut personnel de ses membres. Ce n'est pas innocent, car le confessionnalisme politique est ainsi reconnu.
Et il perdure.
Oui, sur sa carte d'identité, le citoyen libanais doit mentionner sa religion.
Et les athées, alors ?
Eh bien, qu'on le veuille ou non, ils doivent choisir une religion. En même temps, on renforce la séparation entre les communautés.
Et on les empêche de se mélanger.
Et c'est l'une des causes, enfin pas la seule, des drames qui interviendront plus tard. D'autre part, toujours dans cette période entre les deux guerres mondiales, les Français vont procéder à un recensement. En 1932, je crois. La communauté maronite apparaît alors comme la principale entité religieuse du pays. Mais, notez-le bien, il n'y aura plus jamais de recensement. Donc, encore aujourd'hui, on vit sur cette fiction qui veut que les maronites soient les plus nombreux.
Et ça ne correspond plus du tout à la réalité.
Bien sûr que non. Et depuis longtemps, les plus nombreux, et d'abord parce que chez eux le taux de fécondité est plus important, ce sont les chiites. C'est très grave, car à partir de ce recensement de 1932, les Français libres qui ont chassé les troupes vichistes du Liban vont élaborer un pacte national non écrit qui préside toujours à l'organisation politique du pays.
Ouais, sur un mode confessionnel. Hein.
C'est ça. Ouais. Le président de la République doit être obligatoirement issu de la communauté maronite.
Ouais, la plus nombreuse en principe.
Tandis que le premier ministre est sunnite et le président de l'Assemblée nationale chiite. Une règle qui prévoit aussi que dans la fonction publique, les postes doivent être réservés aux diverses communautés dans la proportion de 6 chrétiens pour 5 musulmans.
Et aujourd'hui, ça ne correspond plus à rien.
Et oui, et puis ça exacerbe les tensions entre communautés, car les musulmans se sentent forcément maltraités. Et ce sera aussi l'une des causes de la fracture en 1975. Mais des éléments extérieurs viennent également attiser ces différends après la Seconde Guerre mondiale. Les maronites, vous l'avez compris, sont plutôt tournés vers l'Occident, tandis que les musulmans regardent du côté des pays arabes. Surtout quand l'égyptien Nasser, en tenant tête aux Français et aux Britanniques, devient le champion du panarabisme.
Et puis Nasser penche alors vers le camp socialiste.
Et dans cette période de guerre froide, c'est un nouveau sujet de tension entre les communautés. Ça va d'ailleurs assez loin. En 1958, une mini-guerre civile se déroule entre chrétiens et partisans du panarabisme. Et ce sont des Marines états-uniens qui rétablissent l'ordre. Pourtant, après cet épisode, le Liban se met à espérer.
Ah, pourquoi alors ?
Un nouveau président de la République est élu.
Un chrétien, forcément.
Ouais. Mais ce général, Fouad Chehab, tranche avec ses prédécesseurs. D'abord, il fait en sorte que le Liban se rapproche de ses voisins arabes. Ensuite et surtout, il associe les dirigeants sunnites au pouvoir, augmente la participation des musulmans dans l'appareil d'État et met fin à un certain nombre de privilèges acquis. Cependant, bien sûr, ses successeurs n'auront rien de plus pressé que de revenir sur ces principes de raison et finiront par précipiter le Liban dans le chaos.
Le journaliste américain Jonathan Randall a sans doute écrit l'un des livres les plus pénétrants et les plus intelligents sur le Liban, « La guerre de 1000 ans ». J'en extrais ce passage. Dès les tout premiers jours du mandat confié à la France par la Société des Nations, les chrétiens, et particulièrement les maronites, avaient eu beaucoup de mal à choisir une marche à suivre. Pour la première fois depuis plus de 1000 ans, des chrétiens d'Orient se retrouvaient aux commandes d'un État, et ce, grâce à des chrétiens d'Occident. C'était un peu comme si les croisades avaient réussi. Cependant, les maronites, si inventifs, si ingénieux lorsqu'il s'agissait de faire inlassablement campagne en faveur de la réalisation de leurs aspirations, se révélèrent tristement dépourvus d'imagination une fois au pouvoir. Jamais ils ne parvinrent à oublier les souffrances qu'ils avaient endurées. Jamais, sauf sous la présidence du général Fouad Chehab, de 1958 à 1964, ils ne comprirent la nécessité d'assurer le bien-être des autres communautés. Cheikh Pierre Gemayel mit un jour le doigt sur la véritable difficulté. La peur psychologique qu'éprouvent les chrétiens est intériorisée, viscérale et tenace. Nous ne pouvons y remédier en aucune façon, explique-t-il. C'est aux musulmans de nous rassurer.
La situation internationale n'est donc pas sans effet sur le petit Liban qui continue néanmoins à prospérer, même si la richesse ne profite pas à tous. Si le centre de Beyrouth, par exemple, offre un étalage de luxe qui attire les hommes et femmes les plus fortunés des États du Golfe, il se crée des bidonvilles à la périphérie où stagne une population essentiellement chiite et qui vient des zones rurales. Mais à partir de 1967, c'est la question palestinienne qui, évidemment, va tout changer.
67, la guerre des six jours.
Et la suite, oui. Auparavant, je dois dire qu'il y avait déjà des Palestiniens au Liban, depuis 1947. Des gens qui avaient fui ou qui avaient été chassés par les sionistes. Ils avaient été installés dans des camps situés dans les banlieues des villes. Et ils étaient surveillés par la police.
Une méfiance, là.
Il est vrai que les maronites n'avaient pas vu arriver d'un très bon œil cet afflux de Palestiniens.
Parce que ça renforçait encore le camp musulman.
Mais d'un autre côté, sans patrie, de nombreux intellectuels palestiniens étaient aussi venus s'établir à Beyrouth. Et ils participaient au prestige culturel de cette ville brillante et ouverte. Et puis est donc venue la guerre des six jours. Pour être tout à fait franc, ça n'a guère passionné les maronites. Par contre, la population musulmane s'est sentie naturellement concernée.
Oui, elle a pris parti contre l'occupation de Jérusalem, de la Cisjordanie.
Et de Gaza. Ouais. Il faut aussi tenir compte du fait qu'en théorie, au moins, le Liban était toujours en guerre contre Israël.
Comme les autres pays arabes. Hein,
une convention d'armistice avait été signée, mais pas la paix. Cette question palestinienne a donc été un nouveau facteur de division entre chrétiens et musulmans.
Ouais. Parce que, à la suite de cette guerre, de nouveaux Palestiniens se sont installés au Liban.
Évidemment.
À la fin des années 60, combien étaient-ils ?
On estimera juste avant 1975 qu'ils représentaient 10% de la population libanaise. Parce qu'il y aura encore ceux qui, pour échapper au massacre de Septembre Noir en Jordanie, se réfugieront aussi au Liban.
Alors, en 1975, 10%, ça commence à faire beaucoup.
Hein. En effet. Beaucoup trop, en tout cas, pour les maronites qui ne les apprécient guère et qui craignent, à juste titre, que la présence des Palestiniens ne finisse par leur attirer de sérieux ennuis avec Israël.
Ouais. Parce que les fédayines vont mener des actions contre Israël à partir du territoire libanais.
Et les différentes factions palestiniennes vont installer à Beyrouth même leur structure de commandement.
Ouais. Beyrouth qui devient ainsi, provisoirement, une sorte de capitale palestinienne.
Et qui est frappée dès 1968 par les Israéliens. Un commando héliporté s'introduit dans l'aéroport de Beyrouth et détruit tous les avions de la flotte commerciale libanaise. Ce qui provoquera la fureur du général de Gaulle qui décidera un deuxième embargo contre Israël. Mais ça n'empêchera pas l'aviation israélienne d'effectuer un raid aérien au Liban sur un camp de réfugiés tandis que les incidents se multiplient à la frontière entre les deux pays.
Au sud Liban donc.
Et les nombreuses incursions israéliennes provoquent aussi la mort de civils libanais. Le gouvernement de Beyrouth, bien embarrassé, cède alors à la pression des Palestiniens et va conclure avec eux, en 1969, un accord assez incroyable et pour tout dire très imprudent.
C'est-à-dire ?
Beyrouth leur reconnaît le droit de mener la lutte armée contre Israël à partir du territoire libanais. Et d'autre part, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, obtient d'exercer un contrôle quasi exclusif sur les camps de réfugiés.
Un accord qui met donc à mal la souveraineté libanaise.
Assurément, et qui va peser très lourd dans la suite des événements.
Pourquoi alors ?
D'une part, les Palestiniens ont de plus en plus tendance à se sentir chez eux au Liban, ce qui provoque la fureur des Maronites. D'autre part, Israël va désormais se sentir autorisé à frapper ses ennemis sur le territoire libanais. Quoi qu'il en soit, cette omniprésence des commandos palestiniens se traduit par plusieurs incidents sanglants avec l'armée libanaise. Une armée censée refléter la composition confessionnelle du pays. Son commandant en chef est chrétien, mais le chef d'état-major est druze.
C'est pas simple, hein ?
Eh, mais rien n'est jamais simple au Liban. Toutefois, malgré ce partage théorique des pouvoirs, l'armée libanaise, en raison de la présence dans ses rangs de nombreux officiers maronites, aura toujours tendance à pencher du côté chrétien. On s'en apercevra bientôt. Les militaires n'hésitent pas à intervenir contre les Palestiniens, mais ils se montrent curieusement passifs lorsque les Israéliens font des incursions au sud Liban ou lorsque leurs commandos viennent frapper des dirigeants palestiniens au cœur de Beyrouth.
Mmh. Ça veut dire qu'il existe déjà une sorte de une connivence quoi, entre maronites et israéliens ?
Elle est au moins implicite. Elle ne tardera pas à se concrétiser un peu après le début de la guerre. Il ne faut pas s'en étonner. Après tout, ils ont les mêmes ennemis, les Palestiniens. Cela signifie donc que la tension ne cessera de croître entre l'armée libanaise et la résistance palestinienne. Et avant même le déclenchement de la guerre, on observera des accrochages très sérieux. Autant d'incidents qui creusent encore le fossé entre chrétiens et musulmans.
Ouais, alors, dès lors, l'affrontement paraît inéluctable.
Oui, et chez les maronites, on s'y prépare activement.
Comment
En armant et en entraînant les milices.
Alors, un mot peut-être sur ces milices.
Volontiers. Mais tout d'abord, il faut dire que le camp chrétien est lui-même très divisé. Les principaux chefs, ces seigneurs de la guerre, comme on les a appelés, disposent chacun de leurs propres forces armées. Des milices rivales qui parfois se lanceront les unes contre les autres avec une sauvagerie inouïe. Alors, voyons ça de plus près. La milice la plus importante est celle des Gemayel.
Et les phalanges. Hein.
Qu'on nomme aussi les Kataeb. Pierre Gemayel, le chef du clan, a créé ce parti avant-guerre, après un voyage en Allemagne où il a été très impressionné par les nazis.
Ce qu'il situe d'emblée à l'extrême droite.
Ah, c'est exact.
Ouais. Et les autres ?
Soleiman, Frangier, président de la République dans les années 70, possède aussi sa propre force, les brigades Marada, et il règne en maître dans son fief du nord du pays. Il y a aussi les Tigres, ou Noumour de Kamichamoun, un autre chef de clan. Et encore beaucoup d'autres, comme par exemple les gardiens du Cèdre.
Mm-hmm. Et en face ?
Les Palestiniens disposent bien sûr de leurs propres forces, très bien armées, grâce aux subsides de l'Arabie Saoudite, entre autres. Et ils entendent de représenter la communauté sunnite. Les Druzes, du chef progressiste Kamal Jumblatt, possèdent aussi leurs milices. Ils vont rejoindre les Palestiniens et la gauche libanaise au sein d'un mouvement national. Et puis il y a une organisation chiite, créée par l'imam Moussa Sadr, le mouvement des déshérités, qui se dote également d'une milice.
Tout ça fait beaucoup d'hommes armés, hein ?
Beaucoup trop, oui. Il est certain que le moindre incident peut dégénérer, d'autant que les voisins israéliens et syriens ne cessent de mettre de l'huile sur le feu.
Israël, je comprends, à cause des Palestiniens, mais la Syrie, pourquoi ?
D'abord, la Syrie n'a jamais renoncé à annexer le Liban. Ensuite, face au désengagement progressif de l'Égypte qui veut mettre fin à la confrontation avec Israël, le président syrien Hafez al-Assad entend se poser en champion de la cause arabe.
Contre Israël.
Naturellement. Et il rêve de contrôler à son profit la résistance palestinienne.
Mais la Syrie abrite déjà des Palestiniens.
Assad a même encouragé la formation d'une force armée, la Saïka, qui servira souvent de faune à l'armée syrienne. En tout cas, tous les ingrédients sont donc rassemblés pour que l'explosion se produise. Et c'est le cas, en avril 1975. Alors que Pierre Gemayel participe à l'inauguration d'une église dans la banlieue de Beyrouth, des inconnus tirent sur la foule, il y a deux morts, les représailles commencent aussitôt.
Quels ont été les éléments déclencheurs de la guerre civile libanaise? Voici l'analyse de Charles Zorbib dans un ouvrage publié au PUF. Pour certains observateurs, le conflit est purement interne. Il tire ses racines d'un système communautaire dépassé qui exprimait le compromis entre un Liban à visage arabe, thèse chrétienne, et un Liban intégré à la Syrie, thèse sunnite. Cependant, le système ne pouvait fonctionner sur la base d'une association de minorités car les partis politiques ne recherchaient pas l'intérêt général du pays, mais poursuivaient des intérêts confessionnels, locaux ou personnels. Le président de la République, obligatoirement chrétien, et dont le statut était hybride, ni chef de l'État d'un régime parlementaire, ni président d'un régime présidentiel, tirait en fait un pouvoir toujours plus renforcé entre ses mains des divisions du Parlement ou de l'impuissance du cabinet. La rupture du système se serait produite lorsque les contradictions sociales et économiques auraient fait apparaître l'obsolescence de ce cadre institutionnel fondé sur le confessionnalisme. Pour d'autres, la présence des Palestiniens, qui constitue véritablement un État dans l'État, a divisé l'opinion publique partagée entre les impératifs de la sécurité et les exigences de la solidarité arabe devant se manifester par un soutien aux fédayines. Dans le cadre de cette contradiction, l'accord du Caire du 3 novembre 1969 impose au Liban une doctrine de la souveraineté limitée à usage inter-arabe qui, par ricochet, prolonge au pays du Cèdre les rivalités arabes qui ne peuvent s'exprimer ailleurs.
Vous parliez de représailles hein, après ces tirs anonymes devant une église.
En effet, le hasard fait que peu après cette fusillade, un autocar transportant des fédayines passe devant cette même église. Aussitôt, les phalangistes présents ouvrent le feu. Une trentaine de Palestiniens sont tués. La gauche, essentiellement musulmane, mais il y a aussi des chrétiens chez les Palestiniens, proclame la grève générale. Et trois jours plus tard, le cœur de Beyrouth s'embrase. Phalangistes et membres des milices de gauche s'affrontent armes à la main.
Ouais, c'est la guerre civile qui commence.
Et elle va durer au moins dans cette première phase près de 2 ans.
À Beyrouth seulement?
Non, d'autres combats se déroulent au sud, au nord et à Zaleh, une ville qui se trouve au débouché de la plaine de la Bekaa.
Une ville chrétienne. Donc c'est la guerre totale, quoi.
Bon, enfin, inutile d'entrer dans les détails. Vous vous souvenez sans doute des images de ces combats de rue dans Beyrouth.
Oui, ce qu'on a appelé la bataille des grands hôtels.
Et qui va provoquer la ruine de ces luxueux établissements. Il faudrait aussi parler de l'incendie des souks par les chrétiens, ou encore de l'institution de la ligne verte. En fait, une ligne de front qui sépare Beyrouth en deux. À l'ouest, les musulmans. À l'est, les maronites. Et puis il y a les massacres de part et d'autre. Un seul exemple, le samedi noir, au mois de décembre 1975. À la suite de la découverte de 5 cadavres de phalangistes mutilés à la hache, leurs camarades de combat se déchaînent et massacrent 100 de musulmans.
Oui. Mais comment réagit-on à l'étranger?
Les Syriens, les premiers, essaient de calmer le jeu. Une tentative qui, vous l'imaginez bien, n'est pas tout à fait désintéressée. En fait, Damas brûle d'envie de mettre son grain de sel dans le conflit. Le Vatican, la France aussi, prêchent la paix.
Mais des initiatives uniquement diplomatiques.
Et qui provoquent effectivement peu d'effets sur le terrain. Ouais.
Les États-Unis?
Ils sont d'abord impliqués dans la politique de rapprochement entre l'Égypte et Israël. Et pour eux, la situation libanaise passe au second plan. Et pourtant, la spirale de la violence semble ne jamais pouvoir prendre fin. Exactement comme si les Libanais prenaient une sorte de plaisir pervers à détruire ce qu'ils avaient construit.
Mais est-ce que déjà, enfin, en dehors de ces initiatives diplomatiques, les puissances de la région interviennent dans le conflit?
Oui. La Syrie, très liée à l'URSS, se sent naturellement proche de la gauche libanaise. Et de l'autre côté, chez les chrétiens, on a noué très tôt des liens avec Israël.
Qu'attendent-ils des Israéliens, les chrétiens?
Une protection, des armes.
Ouais. Alors ça veut dire que des contacts ont donc eu lieu.
Oui, effectivement, et dans le plus grand secret. C'est d'abord le clan Chamoun qui a initié ces relations.
Réaction des Israéliens?
Ils ne sont pas très chauds. Ils se demandent surtout s'ils peuvent faire vraiment confiance à ces conservateurs chrétiens qui ont tendance à pleurnicher. Et puis après tout, cette situation de chaos qui prévaut au Liban, un État arabe, ne leur déplaît pas. Il en ira forcément autrement quand la Syrie s'impliquera militairement dans le conflit. Autre élément très troublant, les Palestiniens.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Jusqu'à la fin de l'année 1975, les Palestiniens, bien qu'étant liés au camp musulman progressiste, se sont bien gardés de s'immiscer dans cette guerre confessionnelle interne. Mais au début 1976, les phalangistes lancent des attaques contre des camps palestiniens. Et ce n'est pas innocent.
Expliquez, là.
Il s'agit clairement d'impliquer les Palestiniens et de les obliger à riposter.
D'accord, mais pourquoi?
Le camp chrétien, obsédé par la présence palestinienne au Liban, veut ainsi montrer du doigt les vrais fauteurs de troubles. En outre, cet engagement contre les Palestiniens ne peut pas déplaire aux Israéliens.
Ouf, ça c'est du billard à plusieurs bandes, hein.
Oui, puis ça sera toujours le cas jusqu'au bout de cette guerre civile, quoi qu'il en soit. Les Syriens réagissent à leur façon en décidant d'envoyer au Liban cette Saïka dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Ouais, c'est-à-dire une armée palestinienne sous le commandement syrien.
Oui, oui, et curieusement, personne ne s'offusque. Ni les Israéliens qui feignent de croire qu'il ne s'agit pas véritablement d'un engagement syrien, ni même les chrétiens.
Ça, c'est déjà plus bizarre.
Vous avez raison, car on va assister à un véritable retournement d'alliance. Bon, n'allons pas trop vite.
Bien entendu.
Notons tout de suite, si vous voulez bien, que cette intervention syrienne, car c'est bien de cela dont il s'agit, est approuvée par Washington. Et effectivement, un cessez-le-feu intervient.
Donc sous l'égide de la Syrie.
Exactement. Mais le camp progressiste, ou le mouvement national, comme on l'appelle désormais, a l'impression que la Syrie lui a volé sa victoire, car les chrétiens se trouvaient en mauvaise posture. Aussi son leader, Kamal Jumblat, décide-t-il de reprendre le combat.
Contre la volonté syrienne.
En effet. Et peu à peu, la rupture va s'amorcer entre la gauche et les Palestiniens d'une part et la Syrie d'autre part.
Et c'est ce retournement d'alliance que vous annonciez là.
C'est ça. Et ça va aller très loin, puisqu'au début de l'été 76, les chrétiens en difficulté vont faire officiellement appel à la Syrie.
Il y a l'ennemi d'hier.
Qui s'empresse, bien entendu, de répondre favorablement à ce SOS. Mmh.
L'armée syrienne va donc entrer au Liban. Hein.
Oui, je dois dire aussi que la guerre entre les deux camps a pris une nouvelle tournure. Dans Beyrouth, les belligérants se battent maintenant à l'arme lourde. En même temps, des deux côtés, on se livre au pillage pour financer la guerre. Ainsi, ce sont vraisemblablement des Palestiniens qui ont effectué le casse du siècle en fracturant les coffres de deux grandes banques. Mais il n'est pas exclu que quelques chrétiens et des gangsters leur aient donné un coup de main.
Un gros butin?
Bon, difficile à chiffrer, mais sans doute des dizaines de millions de dollars. Quant aux miliciens phalangistes, ils ont consciencieusement pillé le port. Et là encore, le butin a atteint des sommes faramineuses.
Ouais. Un point partout, quoi. Mmh. Revenons à l'attitude syrienne. Pourquoi le président Assad accepte-t-il aussi facilement ce changement d'alliance?
Franchement, le sort des chrétiens lui est bien indifférent. Mais l'appel au secours qu'il lui envoie est une divine surprise, parce que ça lui permet de pénétrer au Liban avec la panoplie du chevalier blanc et toujours dans l'espoir de construire un jour la grande Syrie, il poursuit trois objectifs. Contrôlant la guerre, il contrôle ipso facto le Liban. Il peut aussi avoir l'œil sur ces Palestiniens trop remuants qu'il aimerait bien manipuler à son profit. Et enfin, il entend éviter une partition du Liban et donc la création d'un État chrétien qui, immanquablement, s'allierait à Israël.
Chez lui, c'est donc pur machiavélisme.
Bien évidemment. Ouais. Ouais.
Mais est-ce que Israël peut accepter l'intrusion syrienne au Liban?
Les dirigeants israéliens ne sont pas ravis. Mais leurs protecteurs états-uniens n'y trouvent rien à redire. Ils sont donc obligés de manœuvrer dans la coulisse. Et comme le président Assad l'a bien imaginé, il joue la carte d'un État maronite indépendant.
On est dans les chrétiens, là.
Oui. Cependant, il n'y a pas unanimité à Tel Aviv. D'autres envisagent au contraire une partition différente du Liban.
Expliquez quelle partition?
Israël annexerait le sud du Liban et abandonnerait le nord à la Syrie. Le nord où seraient refoulés les Palestiniens. Ainsi serait réglée la question palestinienne. Et certains stratèges à Washington ne sont pas loin d'approuver un tel projet.
Et ces différents plans-là trouvent un commencement d'exécution?
Les chrétiens, grâce à l'entrée des troupes syriennes, ont desserré l'étau des forces palestino-progressistes et ils se lancent à l'assaut d'un important camp de réfugiés à Tel Zaatar, dans la banlieue de Beyrouth. Un camp qui forme une enclave dans le camp chrétien. On va alors assister à la plus terrible bataille de cette guerre des deux ans, comme on l'a appelée. 3000 Palestiniens vont y trouver la mort, et il y aura des milliers de blessés. La bataille aura duré presque 2 mois, et permis aux chrétiens de se constituer un territoire homogène.
L'amorce d'un État maronite?
Pourquoi pas.
Mm-hmm. Et les Syriens ont laissé faire?
Mieux. Ils vont à leur tour lancer leurs troupes contre les forces palestino-progressistes. Mais les pays arabes vont siffler la fin de la partie et mettre fin à la guerre, au moins provisoirement.
Les pays arabes, là,
ou enfin, principalement l'Arabie Saoudite, bailleur de fonds des Palestiniens. Elle ne peut accepter l'écrasement de la résistance palestinienne. Et en parfait accord avec les deux super grands, elle obtient de la Syrie un arrêt des combats. Puis au cours d'un sommet arabe, il est décidé d'envoyer au Liban une force de dissuasion qui doit veiller à la sécurité et faire respecter le cessez-le-feu. Toutefois, les dés sont pipés.
Pourquoi là ?
Parce que la FAD, la force arabe de dissuasion, est essentiellement composée de soldats syriens. Cela signifie que Damas va continuer à contrôler le Liban via cette FAD. En tout cas, le Liban en ruine connaîtra une relative accalmie. Mais 60 000 personnes ont déjà trouvé la mort et des dizaines de milliers d'autres ont fui.
Et la paix est précaire. Hein.
Très précaire, oui, car toutes les factions, malgré la lassitude de la population, ne demandent qu'à en découdre à nouveau. Et après avoir appelé les Syriens à la rescousse, les chrétiens vont tout faire pour se débarrasser de leur tutelle, tandis que les Israéliens se décident à intervenir militairement. Mais si vous le voulez bien, nous verrons cela la semaine prochaine.
Le Liban va-t-il à nouveau basculer dans la violence ? Malgré la décision des Syriens d'évacuer leurs troupes, malgré la volonté affirmée des Libanais d'en finir avec les poisons du passé, les ferments de division demeurent entre les différentes communautés confessionnelles. Et les derniers attentats sont venus le rappeler, même s'ils ont été vraisemblablement commis à l'initiative de l'envahissant voisin syrien. La semaine passée, M. Hick nous a raconté la genèse de la guerre civile qui a commencé à ensanglanter le Liban à partir de 1975. En dépit d'une prospérité économique trompeuse car elle masquait de profondes inégalités, tout était en place pour que les Libanais se déchirent. Un système politique obsolète, basé sur l'existence des communautés religieuses, instituées par la France lors du mandat qu'elle a exercé sur le pays jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un système devenu injuste car tenant compte d'un recensement effectué en 1932 et jamais révisé depuis. Alors que la population musulmane était devenue plus nombreuse que la population maronite, les clans chrétiens disposaient toujours de pouvoirs exorbitants. Et puis, il y avait la question palestinienne. Tous ces réfugiés qui avaient afflué au Liban et qui en étaient venus à former un État dans l'État, Beyrouth étant désormais de fait leur capitale. Une présence exécrée par la plupart des chrétiens. Enfin, il y avait les voisins, la Syrie d'abord. Le président Hafez al-Assad, considérant que le Liban faisait traditionnellement partie de la Grande Syrie, était décidé à intervenir par tous les moyens dans les affaires libanaises, ce que vont lui permettre les chrétiens qui, mis en difficulté par les milices progressistes, l'appellent au secours en 1976. L'armée syrienne entre donc au Liban. Elle n'en sortira plus. Israël, ensuite. La concentration des forces palestiniennes au Liban ne peut pas laisser l'État hébreu indifférent. Tel Aviv multiplie les actions de commando et les incursions au Liban Sud, et soutient secrètement les chrétiens qui sont pourtant officiellement alliés aux Syriens. Fin 1976, la guerre de deux ans se termine à l'initiative des pays arabes qui imposent l'envoi au Liban de la FAD, la force arabe de dissuasion, formée surtout d'éléments syriens. Une accalmie trompeuse dans un pays ruiné par la guerre civile, car tous les acteurs du conflit n'ont pas baissé les armes.
C'est vrai que ça ressemble à la paix, mais une paix armée. Au Liban Sud, par exemple, de nombreux incidents opposent la résistance palestinienne à Tsahal.
Parce que les Palestiniens, il faut le rappeler, ont obtenu des autorités libanaises de pouvoir directement combattre Israël à partir du territoire libanais.
Et cette atteinte à la souveraineté libanaise est vivement dénoncée par les leaders chrétiens.
Mais parce qu'elle peut fournir aux Israéliens un prétexte pour intervenir directement au Liban.
Naturellement, et quand le moment se présentera, Tel Aviv n'hésitera pas. Enfin, n'allons pas trop vite.
Oui, évidemment.
Le début de l'année 1977 est marqué par un événement considérable. L'assassinat du chef druze Kamal Jumblat. Jumblat, leader incontesté du camp progressiste et qui prônait la construction d'un Liban pluraliste et déconfessionnalisé. Jumblat, qui s'opposait à l'hégémonie syrienne.
Mmh. Et qui gênait donc.
Incontestablement. Donc, il est éliminé.
Qui alors derrière?
Il ne fait aucun doute que ce sont les Syriens qui sont derrière cet assassinat. La preuve, c'est qu'il a été abattu à quelques centaines de mètres d'un barrage de la force arabe de dissuasion.
Ouais, une force arabe, la FAD, là, où les militaires syriens étaient les plus nombreux.
C'est exact, mais bien sûr, les tueurs n'ont jamais été identifiés. Quoi qu'il en soit, C'est une perte très grave pour le Liban, car ce chef charismatique aurait pu jouer un rôle fondamental dans une éventuelle réconciliation entre les différentes factions. L'assassinat de Jumblatt est suivi, comme bien souvent, par les représailles. Et alors que ses partisans sont persuadés que les Syriens sont responsables de son élimination, ils s'en prennent aux villages chrétiens établis dans leur fief, la montagne du Chouf.
Les chrétiens qui, il faut le noter, sont encore en principe alliés aux Syriens.
Vous avez raison de dire encore, parce que ça ne va guère durer. En tout cas, ces représailles provoquent la mort de plusieurs dizaines de chrétiens. Et le fils de Jumblatt, Walid, doit user de sa toute nouvelle autorité pour mettre fin au massacre. Autre élément très important au cours de cette année 77, l'émergence d'un chef dans le camp maronite.
Qui voulait bien, Béchir Gemayel.
Oui, le fils de Pierre Gemayel, le créateur des phalanges. Béchir, jeune homme fougueux et entreprenant, partisan d'un Liban chrétien et pro-occidental, est bien décidé à regrouper autour de lui les forces maronites au sein d'un front national libanais. Et il montre le bout du nez en organisant une grève contre la présence de la FAD, à Achrafieh, au cœur du Beyrouth chrétien.
Oui, la FAD, il faut le rappeler, c'est la force arabe de dissuasion. Oui. Et donc c'est le commencement de la rupture avec la Syrie.
Et bientôt, on va assister à un nouveau et spectaculaire retournement d'alliance. Enfin, résumons. Au début de la guerre de 2 ans, les Syriens ont d'abord été proches des forces progressistes et palestiniennes. Mais quand les chrétiens poussés dans leur retranchement font appel à la Syrie, Hafez al-Assad s'empresse de voler à leur secours.
Oui, parce que ça lui permet d'intervenir directement dans les affaires libanaises.
C'est ça. Donc, premier retournement d'alliance. Et maintenant, parce que le camp chrétien supporte de plus en plus mal l'occupation syrienne, Damas tourne Kazakh et se rapproche des Palestiniens et des progressistes musulmans regroupés dans le mouvement national.
Au-delà de l'hostilité croissante des chrétiens envers la Syrie, pourquoi ce retournement, encore ce retournement?
À cause de la situation au Proche-Orient. 1977, vous ne l'avez pas oublié, c'est aussi l'année où le président égyptien Sadat prend l'initiative de venir à Jérusalem.
La fin de l'état de guerre entre l'Égypte et Israël.
Et le début des négociations de paix, oui. Un événement considérable qui provoque les plus vives protestations des pays arabes. Assad, qui aspire à prendre la tête de ce front du refus, ne peut pas ne pas renouer avec l'OLP d'Arafat. Car il faut bien le reconnaître, la question palestinienne est bien la grande absente de la réconciliation égypto-israélienne. Le premier ministre d'Israël, Begin, ne veut pas entendre parler de la création d'un État palestinien.
L'initiative de Sadat a donc des conséquences directes sur la situation libanaise.
Oui, d'autant qu'Israël, rasséréné par cette paix séparée avec l'Égypte, va s'intéresser de plus en plus au Liban.
Oui, à cause de la présence palestinienne au Liban.
Bien sûr. Et en mars 1978, Israël lance une opération d'envergure après une campagne de bombardement. 25 000 soldats de Tsahal pénètrent au sud Liban. L'objectif est d'occuper une bande de terre de 10 km afin de sécuriser la frontière israélienne.
Et d'empêcher les tirs de fedaïn sur les villages, les kibbouls du nord d'Israël.
Oui, mais c'est aussi un message adressé aux chrétiens libanais.
C'est-à-dire
Avec le soutien inconditionnel des Israéliens, un général chrétien, Haddad, crée une armée du Liban sud.
Oui, d'accord, mais ce message-là...
Eh bien, c'est un encouragement adressé aux maronites. Pourquoi, dans le réduit que vous contrôlez, ne formez-vous pas une armée semblable?
Mais il existe déjà une armée libanaise.
Du lambeau d'armée, vous voulez dire. Il y a longtemps qu'elle s'est divisée entre musulmans et chrétiens. Enfin, je poursuis, si vous voulez bien. Cette offensive massive pousse des milliers de réfugiés vers Beyrouth, surtout des Palestiniens. Et elle suscite le courroux de la communauté internationale qui la condamne. Résultat, l'ONU envoie une force d'interposition au sud Liban.
Ah oui, la finule.
Une force internationale que les Israéliens ne se priveront pas de bousculer lorsqu'ils en auront envie ou besoin. On en reparlera tout à l'heure.
Alors, vous avez parlé de messages israéliens adressés aux chrétiens.
Des chrétiens qu'ils vont aider de plus en plus. Bientôt, on verra même des miliciens phalangistes venir s'entraîner en Israël. Donc, ce message, comme je l'ai appelé. Pour constituer une force puissante, il faut d'abord que les chrétiens soient d'accord entre eux. Or, les rivalités entre les seigneurs de la guerre demeurent. Ainsi, l'ancien président de la République, Soleiman Frangieh, entend, lui, demeurer fidèle à l'alliance syrienne et quitte le Front National.
Pour quelle raison alors?
Il est uni par des liens familiaux avec le président syrien, Hafez al-Assad. En outre, il n'entend pas subir la tutelle des autres clans chrétiens, ceux des Gemayel et des Chamoun. Surtout à un moment où Béchir Gemayel monte en puissance et ambitionne de devenir le chef du camp chrétien. Par conséquent, il fait retraite dans son fief du Nord, un territoire qu'il contrôle parfaitement. Mais cette position de rupture va coûter très cher au clan Frangieh.
Très cher, que voulez-vous dire là?
Un jour de juin 1978, un commando puissamment armé pénètre dans le palais du fils de Soleiman, Tony. et toutes les personnes présentes, femmes, enfants, miliciens, sont sauvagement abattues.
Un massacre.
Oui, même si le mot a été malheureusement trop souvent galvaudé au Liban. Au total, il y a plus d'une trentaine de morts.
Mmh. Les représailles vont suivre.
Hein. Bah, forcément. Tout de suite après, une quarantaine de sympathisants des phalangistes sont tués dans les villages du Nord. Et le chef du clan, Soleiman, promet qu'il éliminera tous les responsables de la tuerie au cours de laquelle les siens ont péri. C'est-à-dire des Gemayel.
Oui, tous les Gemayel. C'est la vendetta, là. Bon, avant quand même, est-ce qu'on est certain que les Gemayel ont commandité ce massacre?
Absolument. C'est Béchir en personne, sans en référer à son père, qui a pris la décision et envoyé chez Tony Frangier l'un de ses hommes de main, Samir Jaja, un phalangiste membre des forces libanaises qui prendra aussi une part active aux tueries de Sabra et Shatila et assassinera un autre chef chrétien, Dany Chamoun.
Joli personnage, hein. Ouais.
Et qui finira. C'est un des rares cas où la justice libanaise s'est montrée efficace par être condamnée à la prison à vie lorsque la paix sera revenue. En attendant, et malgré le cycle de représailles entamé par les frangiers, Béchir Gemayel doit consolider son pouvoir sur les forces libanaises. Et pour ce faire, il va prouver qu'il est prêt à affronter les forces syriennes de la force arabe de dissuasion, les armes à la main, espérant sans doute que cette provocation obligera Damas à réagir.
Dans quel but alors?
Oh bah sans doute attend-il secrètement qu'Israël vienne au secours des chrétiens. Mais il n'en sera rien. Et la population chrétienne va le payer chèrement. Car les Syriens effectuent des bombardements massifs en pays chrétien. Mais c'est à ce prix que le jeune Gemayel construit son image de chef de guerre.
Jonathan Randall, un journaliste américain auteur d'un remarquable ouvrage, La guerre de Milan, dresse le portrait suivant de Béchir Gemayel. Benjamin des six enfants Gemayel, Béchir reçut une éducation typique de la bourgeoisie maronite chez les jésuites. D'un physique plutôt rebutant, souffrant d'acné à 20 ans largement passé, il compensait par son application ce qui lui manquait en don naturel. Une de ses anciennes condisciples m'a confié qu'il travaillait très dur avec une diligence qu'il sut mettre à profit quelques années plus tard. Et malgré sa propension à la violence, il avait des côtés charmants, une sorte de gentillesse de jeune chiot, un empressement à écouter autrui que l'on trouve souvent chez les jeunes gens sans expérience et peu sûrs d'eux, et un certain ébahissement devant le monde. Et puis, c'était quand même le fils de chaque pierre, ce qui lui fut utile de bien des façons. Sous l'égide d'un vétéran phalangiste, Jean Nader, il allait faire ses premières armes à Ashrafieh, la branche la plus prestigieuse du parti à Beyrouth. Nader me confia un jour qu'au début, son protégé s'était montré assez difficile. Ce n'était pas un élève docile, m'expliqua-t-il. Il croyait pouvoir tout régler avec ses poings. Mais le temps aidant, il en est venu à comprendre qu'en politique, il ne suffit pas de se battre pour arriver à quelque chose. Il se battait avec la police, les gendarmes, dans la rue, avec n'importe qui. Et moi, je le sortais des guépiers où il s'était fourré. Il était très impulsif. Il prenait des décisions immédiates, avait tendance à croire ses miliciens sur parole, sans rien vérifier. Mais ensuite, il a appris à accepter les critiques et je peux vous certifier qu'il n'a jamais tué personne de ses propres mains.
Béchir, c'est certain, apparaît de plus en plus comme le chef militaire et politique du camp chrétien. Mais ça n'empêche pas les maronites de continuer à s'affronter.
Oui, c'est toujours la vendetta des frangiers.
Oui, oui. En 1979, le jour anniversaire de la mort de Tony Frangier, le vieux Pierre Gemayel échappe de justesse à un attentat. Une voiture piégée bourrée d'explosifs saute au moment où son propre véhicule passe à sa hauteur. Deux de ses gardes du corps sont tués. Mais le vieux chef de clan n'est que blessé.
Dites-moi, ça ressemble beaucoup à l'attentat où Rafik Hariri a trouvé la mort récemment.
En effet. Quelques mois plus tard, c'est Béchir qui est visé. Et le procédé elle-même.
Une voiture piégée.
Et l'explosion est télécommandée. Sa fille, Maya, deux de ses gardes du corps, son chauffeur et plusieurs membres de son escorte sont tués.
Et Béchir lui-même?
Ben, il se trouvait pas dans le véhicule. Les assassins ont raté leur coup.
Ouais, ils ont quand même provoqué un sacré carnage. Hein.
Et à partir de ce moment, Béchir et les autres membres de la famille vont redoubler de précautions en changeant, par exemple, sans cesse de voiture.
Ça en fait plus prudent.
Mais les frangiers, pouvant plus difficilement atteindre les Gemayel, s'en sont pris avec l'aide des Syriens et à leurs partisans. En l'espace de 2 mois, quelques 350 phalangistes sont tombés, soit ont calculé les Libanais, 10 hommes pour chacune des victimes de la tuerie du palais de Tony Frangieh.
Ouais, une vengeance impitoyable.
Et qui ne s'achèvera qu'avec la mort de Béchir lui-même. Mais on verra cela dans un instant, si vous voulez bien. Mm-hmm. Donc, malgré ces massacres, Béchir continue à asseoir son autorité sur le camp maronite. Et pas seulement pour des raisons strictement politiques.
Ça veut dire quoi, ça?
Bah, une milice, ça coûte cher.
Bah, oui, très cher. L'entretien, l'armement...
Or, la milice de Béchir compte au moins 2000 hommes, très bien équipés, qui disposent même d'armes lourdes.
Donc, il faut trouver des ressources.
C'est ça. C'est là où je voulais en venir. À cette époque, les milices, toutes les milices, chrétiennes ou musulmanes, vivent en taxant les activités du pays, en contrôlant ce qu'on appelle des ports privés. Des ports gérés directement par les miliciens qui perçoivent donc des droits de douane sur les importations et les exportations.
Les milices se substituent donc à l'État libanais.
Oui, mais l'État existe si peu. J'ajoute, vous devez vous en douter que ces ports privés permettent aussi de se livrer impunément à toutes sortes de trafics. Le trafic de drogue, par exemple. Cette drogue cultivée dans la prospère plaine de la Bekaa. Il faut aussi noter que l'armée syrienne n'en use pas autrement. Donc, pour revenir à ce que je disais, ces activités clandestines sont donc vitales pour les milices. Et Béchir Gemayel est bien décidé à rafler la plus grosse part du gâteau.
Ouais, donc à éliminer les concurrents.
Deux, au moins. Les Arméniens, d'abord. Et ensuite les Tigres, la milice d'un autre seigneur de la guerre, Camille Chamoun, le chef du Parti National Libanais. Et un jour, de juillet 1980, les phalangistes sont passés à l'action et ont attaqué les casernements et les bureaux des Tigres et les installations portuaires qu'ils contrôlaient. Encore une fois, les hommes de Béchir, dont certains semblaient drogués, ont fait preuve de la plus grande sauvagerie. Au cours de la bataille, qui a duré une journée et une partie de la nuit, ils ont tiré sur tout ce qui bougeait. Et des passants ou des dockers qui n'y étaient pour rien ont été eux aussi abattus.
Mmh. Mais comment, c'est ce que je me demande là, comment la communauté chrétienne pouvait-elle supporter de tels massacres?
Ce nouveau bain de sang a effectivement choqué la population maronite. Mais Béchir, très habilement, a prétendu qu'il n'avait fait que châtier une milice qui se livrait au trafic de drogue. Et l'affaire a été entendue.
Ouais. Bref, Béchir se serait conduit en justicier, quoi.
Enfin, c'est ce qu'il a prétendu. Et pour bien montrer l'aspect moralisateur de son action, il a fermé les 5 ports des Tigres, pour les ouvrir à son profit 3 semaines plus tard. En tout cas, après ce sanglant assaut, Chamoun a préféré faire profil bas. Seul son fils Dani, qui sera plus tard assassiné par ce Jaja dont je vous ai parlé, a proclamé, avant de choisir l'exil, que Gemayel n'était qu'un fasciste. Quoi qu'il en soit, la population chrétienne, à l'instant horrifiée par cette violence, n'en a guère voulu à Béchir. Ben
quand même, pourquoi?
Parce que le jeune Gemayel faisait régner l'ordre dans leur petite société.
Quel ordre?
Je suis d'accord avec vous, mais la plupart des Maronites aspiraient à la paix. Et puis ils avaient incontestablement besoin d'un héros, d'un personnage susceptible d'incarner leur communauté. Et Béchir était le premier dirigeant chrétien qui correspondait à cette image. En outre, il y avait sa jeunesse. Béchir était donc le chef, mais aussi le protecteur qui les entretenait dans l'idée qu'ils devaient se débarrasser de la part arabe qu'ils avaient en eux. C'est très important.
Et pourquoi?
Parce que ça plaisait à l'Ouest. Ce jeune chef chrétien qui se dressait contre les Arabes et résistait. Aux États-Unis, où il existait un lobby libanais très actif, mais aussi en France et en Israël, on en a fait rapidement un héros du monde libre.
Donc en passant sous silence les violences de sa milice.
Oui, déjà dès 1980, on voyait en lui le futur président de la République. D'ailleurs, Béchir ne dissimulait nullement ses ambitions.
Mmh. Mais sur le terrain, alors?
À part Beyrouth, où des incidents sporadiques se produisent entre les deux camps, il existe deux points chauds. Au Liban Sud, d'abord, où la tension n'est jamais retombée.
Malgré la présence de la FINUL,
oui,
les forces de l'ONU.
Oui, oui, les Israéliens mènent plusieurs raids aériens très meurtriers sur les positions palestiniennes. Et l'OLP riposte en bombardant le nord d'Israël. La situation est d'autant plus tendue que le commandant Haddad a proclamé l'indépendance du petit territoire qu'il contrôle sous l'aile protectrice de Tsahal. Mmh.
Et l'autre foyer de tension, alors?
Zalé, une ville chrétienne au débouché de la plaine de la Bekaa. Les troupes syriennes veulent s'en rendre maître. Bombardement, opération héliportée, la guerre y fait rage et donne même lieu à une confrontation aérienne directe entre Israéliens et Syriens. En même temps, on observe une intense activité diplomatique. Américains et Français essaient de s'entremettre, car ils craignent qu'Israël ne passe à l'action. La Syrie a en effet installé des batteries de missiles dans la plaine de la Bekaa. À Tel Aviv, on estime que cela représente une menace directe pour Israël.
Mmh. Il est donc d'autant plus urgent d'essayer de calmer les uns et les autres.
Ah, mais parce que l'escalade est réelle. À la mi-81, l'aviation israélienne lance plusieurs violentes attaques aériennes sur le territoire libanais. Sont visés des camps palestiniens. Même Beyrouth Ouest est touché. En représailles, l'OLP bombarde les localités israéliennes de Galilée. Et pourtant, les efforts diplomatiques portent enfin leurs fruits. L'envoyé spécial du président Reagan, Philippe Habib, obtient un cessez-le-feu en juillet 1980.
Mais un vrai cessez-le-feu ?
Un cessez-le-feu précaire, comme tous ceux qui sont intervenus au Liban. Le mois suivant, c'est le ministre français des Affaires étrangères qui arrive au Liban. Il rencontre les dirigeants libanais, mais aussi Arafat.
Claude Chesson, je crois. Oui. Et c'est la première fois qu'un ministre français rencontre officiellement le chef de l'OLP.
Oui, mais une semaine plus tard, notre ambassadeur, Louis Delamarre, est assassiné.
Et par qui ?
Sur l'identité des commanditaires, on a l'embarras du choix. Les Syriens n'avaient certes nulle envie que les Français viennent mettre leur grain de sel au Liban, leur chasse gardée. Mais on pouvait aussi penser aux Iraniens, qui nous reprochaient de vendre des armes à l'Irak et de donner asile à leurs opposants. Et enfin, la rencontre Chesson-Arafat n'avait guère été appréciée par les autorités israéliennes. Enfin, seule certitude, les tueurs ont bénéficié de complicité syrienne. Arafat lui-même en a donné la preuve au gouvernement français.
Bah ça, au moins, ça exonère Israël.
Allez savoir. Au Mossad, il y avait des spécialistes des coups tordus. Bon, passons, car je n'ai pas de preuve. Le début de l'année 1982 marque un tournant dans le dossier libanais.
Et pourquoi, non ?
Les Israéliens sont de plus en plus décidés à intervenir au Liban pour en chasser l'OLP. Mais ils ont besoin d'un allié sur place.
Il y a le camp chrétien.
Oui, et dès le mois de janvier, le premier ministre israélien, Menachem Begin, et le ministre de la Défense, Ariel Sharon, rencontrent Béchir Gemayel.
Sharon et Begin étaient-ils sur la même ligne ? En clair, Sharon va-t-il outrepasser les ordres de son premier ministre lors de l'opération paix en Galilée, c'est-à-dire l'invasion du Liban par Tsahal ? Jean-Michel Stäbler, auteur du site internet Med Intelligence, donne l'analyse suivante. Ce qui est certain, c'est qu'Ariel Sharon envisage très sérieusement une opération d'envergure au Liban, même si les services secrets israéliens, qui ont noyauté les forces maronites et se sont infiltrés dans la mouvance palestinienne, y compris dans le proche entourage de Yasser Arafat, n'y sont guère favorables. De là, affirmer que Sharon ait délibérément trompé le Premier ministre et le cabinet, il y a un pas. Certes, les responsables politiques, depuis l'affaire de Zirak, il s'agit du bombardement de la centrale nucléaire irakienne, sont très divisés quant à ses actions préventives, mais on voit mal Ariel Sharon réussir à cacher son projet au gouvernement dans son ensemble, alors qu'une telle opération exige des préparatifs politiques, diplomatiques et militaires qui ne peuvent passer inaperçus. D'abord, à partir de l'armistice du 24 juillet 1980, Tsahal lancera coup de boutoir sur les forces palestiniennes au Liban. Celles-ci, averties d'une opération israélienne sans en connaître l'ampleur, se limitant à riposter par quelques tirs de Katyusha sur le nord de la Galilée. Jérusalem justifiera ce harcèlement en présentant les Palestiniens comme des terroristes et non comme des résistants, cherchant à recouvrer leur patrie. Il fallait ensuite se ménager les bonnes grâces de l'allié américain et on voit mal comment Begin, ou alors il ne lisait pas les rapports du Mossad ou plus simplement la presse, aurait pu ignorer la bienveillance de William Casey, le directeur de la CIA, ou celle du secrétaire d'État Haig, parfaitement au courant de la position radicale de Sharon.
Au cours de cette rencontre là, entre dirigeants israéliens et maronites...
Je vous arrête, si vous voulez bien, parce qu'il y en aura d'autres.
Ah bon. Hein.
Sharon, en personne, se rendra même à Beyrouth pour rencontrer les Gemayel.
D'accord. Alors, je reviens à la question, là. Au cours de cette rencontre, quelle est la demande de Tel Aviv ?
Sharon veut que les forces libanaises jouent un rôle actif.
Militairement, vous voulez dire ?
Oui, ce n'est pas tant que les Israéliens ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls, mais ils veulent mouiller les maronites.
Et justifier leur invasion en faisant croire qu'ils viennent soutenir les chrétiens.
Mais alors que leur seul objectif, c'est la destruction de l'infrastructure politique et militaire de l'OLP, oui.
Alors, les maronites répondent-ils positivement ?
Oui, car ils tiennent absolument à ce que les Israéliens viennent faire le ménage au Liban, mais nous le verrons tout à l'heure, ils ne respecteront pas leurs promesses.
Ouais. Donc ils ont dupé leurs interlocuteurs ?
Absolument.
Alors comment ça commence, là, cette histoire ?
Les Israéliens ont besoin d'un prétexte. Abu Nidal va le leur fournir très opportunément en blessant grièvement leur ambassadeur à Londres.
Et vous m'avez dit, il n'y a pas si longtemps, que vous soupçonniez Abu Nidal d'avoir joué un jeu trouble avec Israël.
Je ne me renie pas, en tout cas. Dès le lendemain, au début juin 1982, je crois, l'opération paix en Galilée commence.
Pourquoi ce nom de code, là ?
Parce qu'en principe, il s'agit d'assurer la sécurité des localités situées au nord d'Israël et en occupant une bande de 40 km de profondeur au sud du Liban. Mais comme vous le savez, Sharon ne s'en tiendra pas à la réalisation de cet objectif. Et c'est prévu dès le début, je crois vous l'avoir démontré.
Concrètement, alors, comment ça se passe?
L'opération commence donc par des bombardements très intenses sur des villages du sud. Puis 100 000 soldats envahissent le Liban, bousculant en passage les contingents de la FINUL.
Est-ce qu'on leur oppose une résistance?
Oui, à Tir, à Saïda, à Caldé. On se bat farouchement. Mais le rouleau compresseur de Tsahal l'emporte tout. Et une semaine seulement après le début des opérations, les Israéliens commencent le siège de Beyrouth Ouest.
Ouais, c'est-à-dire le Beyrouth musulman. Hein.
Là où l'OLP s'est installé.
Fortement implanté. Hein.
Oui, car les Palestiniens s'attendaient à être attaqués. Ils ont donc creusé des souterrains, édifié des abris et accumulé des stocks de munitions. Mais les bombardements dévastateurs de l'aviation israélienne finissent par avoir raison de leur résistance. Mais seulement après 10 semaines de siège. Et les fédayines quitteront le Liban en bon ordre et en héros.
Et sous la protection d'une force internationale.
Elle est composée de soldats états-uniens, français et italiens. Ce qui vaut signe de reconnaissance.
Pour les Palestiniens.
Oui. Ainsi, paradoxalement, l'OLP accroîtra son prestige grâce à Sharon. Sharon qui avait estimé que dès le début de son offensive, les fédayines fuiraient comme des lapins.
Oui, ils ont résisté plusieurs semaines. Alors, revenons à ce que vous disiez plus haut, là. Béchir Gemayel aurait dupé les Israéliens?
C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. D'abord, le camp chrétien est déçu.
Pourquoi?
Les Maronites espéraient que lors de leur offensive au Liban, les Israéliens auraient chassé les Syriens. Mais Washington veille.
Et Washington qui n'a nulle envie de voir éclater une guerre israélo-syrienne.
Un conflit qui pourrait voir s'embraser toute la région. Par conséquent, sur injonction américaine, Tsahal s'arrête au bord de la plaine de la Beka. Mais Sharon est également déçu. Car les forces libanaises ne se sont pas jointes au combat. Or, le ministre israélien espérait bien que les miliciens de Gemayel feraient le sale boulot, le plus meurtrier, c'est-à-dire qu'ils entreraient dans Beyrouth Ouest pour chasser les Palestiniens. Mais Béchir s'y est refusé. Et il avait une bonne raison pour cela.
Et cette bonne raison?
L'élection présidentielle prévue pour la fin du mois d'août. Si Gemayel avait lancé ses troupes contre les Palestiniens, il ne fait nul doute que les voix des députés musulmans lui auraient manqué.
Ouais, donc, face aux Israéliens, il fait la sourde oreille.
Exactement. Ça lui réussit. Certes, les députés sunnites boycottent l'élection, mais ils ne votent pas contre lui.
Ouais, donc, il est élu président de la République libanaise.
Fin août 82, oui. Et il apparaît bientôt aux Libanais, chrétiens ou aux musulmans que Béchir est l'homme qu'il leur faut. Un président qui prêche la réconciliation entre les factions et qui est adepte d'un pouvoir fort. Susceptible d'en finir enfin avec les divisions du pays.
Une sorte d'exploit, car Béchir était quand même le représentant de la droite chrétienne la plus dure.
C'est pourtant la vérité. Pendant les 3 petites semaines où il est resté président de la République, Gemayel a été extrêmement populaire. Et on a faim d'oublier qu'il devait son accession à la présidence à l'opération Paix en Galilée. Il va même se payer le luxe, si j'ose dire, de résister aux demandes pressantes d'Israël qui voudrait absolument signer une paix séparée avec le Liban. Il pouvait d'autant plus s'obstiner dans ce refus qu'il savait qu'il était soutenu par les États-Unis.
Il faut m'expliquer, là.
Washington voulait en finir au plus vite, en commençant par obtenir le retrait des troupes israéliennes du Liban. Or, Begin s'accrochait. Mieux, il avait enfreint les accords passés avec le négociateur américain, Philippe Habib, en faisant progresser ses troupes en direction du camp palestinien de Shatila, sous prétexte de déminer les routes. Mais fondamentalement, la Maison-Blanche pensait que Béchir Gemayel ne pouvait pas signer cette paix séparée. Pas tout de suite, en tout cas.
Oui, parce que en signant, le Liban se serait mis au banc de la communauté arabe.
Bien entendu. Il lui serait arrivé ce qui s'était passé avec l'Égypte. Or, le Liban, ruiné, avait besoin de l'aide arabe pour la reconstruction.
Oui, de l'argent arabe, vous voulez dire.
Oui, mais les États-Unis, qui accordaient déjà des aides financières considérables à l'Égypte et à Israël, n'avaient pas du tout envie de mettre une nouvelle fois la main en porte-monnaie.
Alors, Gemayel est donc soumis à une sorte de chantage de la part des Israéliens, ainsi. Hein, si vous ne signez pas ce traité de paix, nos troupes restent au Liban,
c'est
bien ça?
Oui, mais un événement va brutalement changer la donne. À la mi-septembre, Béchir Gemayel meurt au cours d'un attentat qui détruit entièrement le QG des phalangistes. Et là encore, on peut s'interroger sur l'identité des commanditaires, tant ils pouvaient être nombreux.
Les Syriens d'abord. Hein?
Forcément, les Syriens qui lui reprochaient sa connivence avec Israël. Il y avait ensuite l'OLP. Et même les Israéliens, à qui il refusait la signature de ce traité de paix. Enfin, il y avait le clan des Frangiers, qui lui vouait toujours une haine farouche. Mais Il n'était pas exclu non plus qu'un rival de Béchir au sein des forces libanaises ait pu agir.
Ah oui, je vois là. Obeika, par exemple, hein, dont vous m'avez parlé l'an dernier.
Obeika, le principal garde du corps de Gemayel, l'homme chargé de sa sécurité. Et je vous répète, pourquoi il peut être soupçonné? Le jour de l'attentat, bizarrement, l'unité spéciale chargée de la protection de Gemayel était absente.
Et cette unité était placée sous la responsabilité de ce Obeika. Hein.
Autre indice. Obeika, qui avait été résolument pro-israélien, va bientôt tourner kazakh et se rapprocher des Syriens.
Par conséquent, enfin, ceux-ci, les Syriens, étaient peut-être dans le coup.
Et d'autant que l'un des hommes responsables de la préparation matérielle de l'attentat a été retrouvé. Un certain Chartouni, membre du PPS, le Parti Populaire Syrien, une faction chrétienne opposée aux phalangistes. Par conséquent, le coup semble venir de Damas, sans doute avec la complicité d'Obeika. Et cependant, on ne le saura jamais. Obeika, comme vous le savez, a lui-même péri dans un attentat en 2002. Mais la mort de Béchir Gemayel va entraîner de terribles conséquences.
Oui, ça me braille Chatila.
Oui, deux jours plus tard, contrairement aux promesses faites au négociateur états-unien Philippe Habib, Sharon, profitant de l'émotion suscitée par la disparition de Béchir, entre dans Beyrouth Ouest. Son objectif, c'est clairement les camps palestiniens de Sabra et Shatila, où, prétend-il, se cachent des terroristes. Mais comme il ne veut pas que les soldats israéliens se salissent les mains, même si certains ne sont peut-être pas aussi innocents qu'ils ont l'air, il lâche dans les camps des miliciens phalangistes, des hommes aveuglés par la haine.
Et à cause de la mort de Gemayel.
Et ils vont se venger de façon atroce sur les civils palestiniens qui habitent ces camps. Hommes, femmes, enfants sont massacrés. Et les survivants sont remis aux Israéliens aux fins d'interrogatoire.
Ouais. La responsabilité de Sharon est donc écrasante.
C'est certain. Car non seulement il a ouvert les camps aux tueurs, mais il n'a rien fait pour empêcher les tueries, alors que les soldats israéliens savaient pertinemment ce qui se passait. Toutefois, le Liban est loin d'en avoir fini avec la violence, malgré la rapide élection du frère de Béchir, Amin, à la présidence de la République. Toutefois, si vous le voulez, je vous propose de voir la suite dans un prochain entretien et dernier entretien sur le Liban.
On croyait avoir vu le pire. Déjà 7 ans de guerre civile et des dizaines de milliers de morts. En 1982, le petit Liban, cette Suisse du Moyen-Orient, comme on l'avait autrefois appelé, était en lambeaux et sa capitale, Beyrouth, n'était plus qu'un champ de ruines. Deux puissances étrangères, Israël et la Syrie, occupaient de larges pans de son territoire, presque 80%. Son armée, divisée entre chrétiens et musulmans, était réduite à l'impuissance et ses autorités politiques étaient dans l'impossibilité de gouverner. Pourtant, en août 1982, les Libanais s'étaient repris à espérer un jeune président de la République, Béchir Gemayel, venait d'être élu chef du camp chrétien. Il promettait la réconciliation et l'apaisement. Et on oubliait ses violences passées et même le fait qu'il devait son élection à l'invasion israélienne. Mais, 3 semaines plus tard, un attentat anéantissait cet espoir. Fou de haine et de vengeance, ses partisans allaient massacrer les réfugiés des camps palestiniens de Sabra et Shatila grâce à la passivité, sinon la connivence, des soldats israéliens. Mais un nouvel espoir ne tardait pas à naître. Le frère du président assassiné, Amin, était à son tour élu. Lui aussi prêchait la pacification des esprits et recevait non seulement le soutien des principaux seigneurs de la guerre libanais, mais également celui d'une partie de la communauté internationale qui acceptait d'envoyer au Liban une force d'interposition composée de soldats états-uniens, français, italiens et britanniques. Malgré tout, le Liban allait bientôt retomber dans le chaos, une situation peut-être encore plus catastrophique que celle qu'il avait connue durant les 7 premières années de la guerre civile. C'est la 3e partie de l'entretien que m'a accordé M. X sur le douloureux dossier libanais.
Le mandat d'Amin Gemayel commence sous les meilleurs auspices. On voit même des Libanais qui s'étaient exilés à cause de la guerre revenir au pays. Et à Beyrouth même, des passages sont ouverts entre l'Est et l'Ouest.
C'est-à-dire entre les zones musulmanes et chrétiennes.
Oui, les États-Unis semblent décidés à s'impliquer en participant financièrement à la reconstruction du pays. Mais de nombreuses difficultés demeurent, à commencer par l'occupation israélienne. Encore une fois, Washington pèse de tout son poids. Et au mois de mai 1983, Israéliens et Libanais arrivent à un accord. Il est mis fin à l'état de guerre et en échange de l'évacuation de l'armée israélienne, Beyrouth accepte l'instauration d'une zone de sécurité au sud Liban.
Mmh. Donc, une amputation, enfin, de facto, du territoire libanais.
Et ce ne sera pas sans conséquence, vous allez le voir. En outre, une clause secrète de l'accord conditionne le retrait israélien à celui des troupes syriennes et palestiniennes. Mais quoi qu'il en soit, cette négociation bilatérale provoque la fureur de la Syrie. Dès le lendemain, une pluie d'obus s'abat sur Beyrouth Est et le réduit chrétien.
Parce que Damas refuse de quitter le Liban.
Bah, évidemment. Ouais. Appelé autrefois par le président chrétien Soleiman Frangier, les Syriens n'ont pas du tout l'intention de bouger. Mmh. Et le président Hafez al-Assad accuse le gouvernement libanais d'être subordonné à l'ennemi sioniste. À vrai dire, les Syriens ne sont pas les seuls à dénoncer cet accord. Les Druzes, les chiites et les palestiniens sont sur la même ligne et dénoncent cette atteinte à la souveraineté libanaise et accusent Gemayel d'être manipulé par les extrémistes chrétiens.
Les phalangistes.
Oui. Ouais.
Et, bah, ça se complique pour le président Gemayel. Hein.
Ah, bah, en effet, oui. Car ni Israël ni la Syrie n'ont envie de lui faciliter la tâche, bien au contraire. Israël d'abord. Tel Aviv a définitivement renoncé à la création d'un État maronite allié.
Le rêve de Sharon.
Et pourtant, le principal souci des Israéliens, c'est maintenant cette zone de sécurité au sud Liban. Or, dans cette zone, contrôlée en principe par l'armée du Sud-Liban, du commandant Haddad...
L'allié Haddad, hein, l'allié le protégé des,
ouais, c'est
des
ça,
Israéliens.
Ouais. Ouais. Donc, dans cette zone, une résistance est née, initiée à la fois par des Palestiniens, des chiites, du mouvement Hamal, et des nouveaux venus, les miliciens du Hezbollah, également chiites.
Oui, ceux-là sont téléguidés par l'Iran.
Oui, et Israël, non sans arrière-pensée, décide soudain d'évacuer la montagne du Chouf.
C'est-à-dire le fief des Druzes.
Et en remettant le contrôle de la région à ces mêmes Druzes, au lieu de la confier à l'armée libanaise. Les Israéliens savent très bien ce qu'il en adviendra.
Mmh, quoi?
Bah, ce qu'on a appelé la guerre de la montagne, c'est-à-dire un conflit sanglant entre Druzes et chrétiens. Dès le départ de Tsahal, l'armée épaulée par les forces libanaises...
Les phalangistes, essentiellement.
Oui, oui. Donc l'armée se lance à l'assaut du Chouf. Et non seulement les Druzes résistent, mais ils s'emparent de plusieurs villages chrétiens de la montagne. Et cette guerre confessionnelle provoque la mort de plusieurs centaines de civils et combattants et complique encore un peu plus l'imbroglio libanais.
Expliquez plus précisément.
Du côté druze, on a reçu le soutien des Palestiniens, mais aussi des Syriens. Et discrètement, les Israéliens ont aussi donné un coup de main.
Enfin, pourquoi c'est encore un retournement d'alliance.
Ouais, enfin, qui n'est pas officiel, non. Ce que cherchent les Israéliens, c'est la déstabilisation du pays, un point c'est tout. Parce qu'ils en veulent à Amin Gemayel.
Et pourquoi alors?
Bah, l'accord passé entre Libanais et Israéliens au sujet du retrait de Tsahal n'a toujours pas été ratifié par le président libanais. Parce que celui-ci ne veut pas ou ne peut pas obtenir le retrait parallèle des troupes syriennes.
Donc, j'essaie de comprendre là. En laissant face à face les chrétiens et les druzes, Israël entend adresser un message à Gemayel.
Ah ben c'est certain, parce que les Israéliens peuvent rééditer cette opération dans le sud du pays, s'ils retirent leurs troupes. Des villages chrétiens se trouveront à nouveau sous la menace directe des milices islamistes.
Et de nouveaux massacres se produiront.
Inévitablement. Mais, si vous voulez bien, j'en reviens à la guerre de la montagne entre druzes et chrétiens. Elle obéit aussi à des considérations internationales. Au Kremlin, on a guère apprécié la mise en place d'une force d'interposition occidentale. Il était donc tentant d'essayer de prendre une revanche.
Oui, oui, d'accord, mais comment?
Bon, en équipant militairement l'allié syrien.
Et en le poussant à intervenir dans le Chouf.
Même si Hafez al-Assad n'avait pas besoin d'être poussé.
Bon,
cette internationalisation de la guerre de la montagne est avérée lorsque les chrétiens, en difficulté, reçoivent, eux, l'aide de l'aviation et de la marine états-unienne qui bombardent les positions druzes et syriennes. C'est très grave. Parce qu'en principe, la force multinationale doit se garder de prendre parti.
Ah oui, elle n'est là que pour garantir l'ordre.
Hein. Un ordre, par ailleurs, fort précaire. Et ce n'est pas par hasard si quelques jours plus tard, deux camions suicides provoquent un massacre à la fois dans les quartiers généraux américains et français.
Et ça c'est un rapport direct avec la guerre de la montagne?
En partie, oui. Parce qu'il y a aussi d'autres raisons. Ces terribles attentats ont été commandités par les Syriens, peut-être avec l'aide des Iraniens. Les Syriens, parce qu'ils sont hostiles à la présence de la force multinationale qui entrave leurs ambitions au Liban.
C'est-à-dire la mamie sur le pays, quoi.
Et les Iraniens, parce qu'ils veulent punir le grand et le petit Satan.
Oui, les États-Unis et la France. Hein.
La France, contre laquelle ils nourrissent de nombreux griefs. Nous en avons souvent parlé. En même temps, de violents incidents opposent les chiites de la milice Hamal à l'armée libanaise. L'enjeu étant le contrôle de Beyrouth Ouest. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, le camp chrétien se fissure. Le clan de Soleiman Frangier, l'ennemi de Gemayel, se rallie à Damas.
Ouais, nouveau point marqué par Hafez al-Assad.
Hafez al-Assad qui entend en profiter aussi pour asseoir définitivement son autorité sur l'OLP de Yasser Arafat. Arafat qui est revenu au Liban et a reconstitué une partie de ses forces au nord à Tripoli. Hafez al-Assad, le Bismarck syrien, comme l'appelle Kissinger, suscite la création d'un mouvement palestinien dissident et, avec l'aide de ses rebelles, lance ses troupes contre celles d'Arafat. Et à l'issue d'un siège qui dure 3 mois, le leader palestinien et ses 4000 fidèles doivent quitter une fois de plus le Liban sous la protection des forces françaises.
Ouais, je me souviens. Enfin, c'est quand même décidément très compliqué, hein, tout ça.
Ah ouais, mais ça ne fait que commencer, car les retournements d'alliances vont se multiplier. En fait, ce sont les États de la région qui se font la guerre par milices interposées, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Et bien sûr Israël, qui met de l'huile sur le feu. Quant à la richissime Arabie Saoudite, elle a beau financer les uns et les autres, elle peine à rétablir la paix. Pourtant, fin 1983, puis en mars 1984, les Saoudiens obtiennent que les principales factions se réunissent en Suisse, autour du président Gemayel.
Avec quel résultat, hein ?
Médiocre. Certes, on assiste à une sorte de réconciliation. Toutefois, c'est une réconciliation de façade, même si un gouvernement d'union nationale réunit provisoirement les leaders des principaux mouvements. Car le point d'achoppement demeure cet accord bilatéral négocié avec Israël. Un accord que Gemayel n'a toujours pas ratifié, parce que l'opposition, essentiellement musulmane et progressiste, s'y oppose. On ne peut pas, disent ses dirigeants, mettre sur un pied d'égalité le frère syrien et l'ennemi israélien.
Le frère syrien.
Oui, enfin, l'encombrant frère syrien, qui est plus que jamais maître de la situation. C'est à Damas que tout se passe, et les leaders font le voyage à tour de rôle.
Pour recevoir des ordres.
Ou de conseils. Alors, pour essayer d'y voir clair, voyons les autres points essentiels qui caractérisent la crise libanaise en ce milieu des années 80. Il faut d'abord noter la montée en puissance de la communauté chiite.
Oui, le mouvement Hamas. Hein.
Et le Hezbollah présent au sud-Liban et jusque dans la banlieue de Beyrouth. Deux mouvements qui seront bientôt rivaux. Le premier étant soutenu par les Syriens et le deuxième par l'Iran. En tout cas, les chiites forment maintenant la communauté la plus importante du pays, même si, officiellement, on se réfère toujours au recensement de 1932.
Ce fameux recensement qui avait formalisé la primauté des maronites. Hein.
Oui, deuxième observation. Les chrétiens, déjà divisés entre le clan Frangier et le clan Gemayel, vont connaître une nouvelle scission, au sein même du camp phalangiste. Une sorte de putsch perpétré par deux jeunes ambitieux, Samir Jaja et Eli Obeika.
Et deux chefs de guerre qui, il faut le rappeler, ont participé au massacre de Sabra et Chatila.
Exactement, hein. Oui. Et prenant rapidement un ascendant militaire dans le camp chrétien, ils se tournent tous les deux vers Damas.
Encore un spectaculaire retournement d'alerte.
Ouais, et troisième point, c'est aussi le moment où on assiste à une véritable campagne d'attentats et de prise d'otages d'occidentaux, américains mais aussi français.
Ouais, mais alors, la raison profonde.
Bon, il ne fait nul doute que l'Iran se trouve derrière ces actions terroristes. L'Iran engagé dans une terrible guerre contre l'Irak et qui entend ainsi peser sur les occidentaux qui soutiennent alors l'Irak.
Donc, rien à voir avec la crise libanaise ?
Non, non, d'autant que dès le début de 1984, la force multinationale a plié bagage. Enfin, je voudrais quand même vous signaler l'entrée dans le jeu libanais d'un nouveau personnage.
Mais qui
Rafik Hariri, un richissime homme d'affaires. C'est lui, au cours d'une rencontre secrète en France avec l'un des deux hommes forts des phalangistes, Eli Obeika, qui a persuadé ce dernier que la paix au Liban ne pourrait aboutir qu'au prix d'une entente avec la Syrie.
Mais Hariri, qui est donc alors pro-syrien, hein.
Ouais, enfin, ou réaliste, comme vous voudrez.
Monsieur X va bien sûr reparler de Rafik Hariri. Alors, avant de poursuivre, quelques éléments biographiques sur cet homme qui sera plusieurs fois Premier ministre d'un Liban pacifié. Hariri, contrairement à tous les autres dirigeants qui se sont succédés depuis l'indépendance, n'était pas issu d'une grande famille. D'abord, modeste entrepreneur en bâtiment, ce sunnite, né à Saïda, va construire néanmoins une immense fortune. J'emprunte la suite à Mouna Naïm, la correspondante du Monde. La chance commence à lui sourire lorsque, après quelques années passées au poste d'expert comptable d'une entreprise d'agrumes, il décide en 1967, comme de nombreux compatriotes et d'autres ressortissants arabes, de tenter d'aller faire fortune en Arabie Saoudite, pays par excellence de l'or noir. Il fait mouche, dans un royaume où tout est à construire et où ce ne sont pas les moyens qui manquent. Mais son coup de maître aura été de relever un défi posé par le prince héritier saoudien et futur roi Fahd, qui lui demande en 1980 de construire en un temps record un centre de conférence pour accueillir un sommet de l'organisation de la conférence islamique OCI. Sa fortune est faite et ira désormais grandissant. Ses liens avec la famille royale, en particulier avec l'un des fils du roi Fahd, et ses moyens financiers lui donnent les clés d'une ascension rapide. Fait rarissime, il est même naturalisé saoudien. Bien que n'ayant pas fait d'études supérieures, Rafik Hariri, tout en maintenant ses activités dans le royaume wahhabite, aura le flair et l'intelligence de diversifier par la suite ses sources de revenus. Lorsque, en 1978, il revient dans un Liban en guerre depuis 3 ans, il ne prend position pour aucun des clans en conflit et maintient le contact avec tous les protagonistes.
Toutes ces divisions entre factions, chef phalangiste contre Gemayel, Amal contre Hezbollah, ou encore palestinien et druze contre Amal, arrangent bien la Syrie.
Oui, quand elles ne les suscitent pas, si je vous ai bien compris.
Ouais, vous avez tout à fait raison. Parce que plus les Libanais sont divisés, plus ils auront tendance à demander un jour à Damas de rétablir la paix.
Mais la Pax Syriana.
En effet. Et on assiste à une première tentative à la fin 1985. Hafez el-Assad rassemble sous sa houlette Elio Beika, Walid Jumblat et Nabi Berri.
C'est-à-dire les chefs réciproques des phalangistes, des druzes et des chiites d'Amal.
Et un accord est signé par ces trois chefs et contresigné par le vice-président syrien Abdelalim Kadam.
Et quels sont les termes alors, de cet accord tripartite-là?
Bien, le socle, c'est l'établissement de relations privilégiées entre la Syrie et le Liban.
Pour une sorte de mise sous tutelle.
Ça y ressemble, oui. Ensuite, il est prévu des réformes constitutionnelles, et en particulier la fin du confessionnalisme. Mais ça, c'est un serpent de mer. Tout le monde, ou presque, le réclame.
Oui, personne ne travaille vraiment à le mettre en œuvre. Hein.
Enfin, il est décidé de mettre au pas les Palestiniens, toujours accusés de vouloir former un État dans l'État.
Mm-hmm. Et Gemayel dans cette histoire-là, parce que c'est tout de même le président de la République.
Ah ben, il n'a pas été consulté.
Ah bon.
Et quant à son tour, au début 1986, il se rend à Damas, il refuse d'entériner l'accord. Un accord qui, n'importe comment, devient inapplicable car un conflit éclate au même moment entre les deux chefs militaires chrétiens, Beika et Jaja. Un conflit si violent que les partisans des deux hommes s'affrontent les armes à la main. Résultat, Beika, pris au dépourvu, doit fuir à Damas.
Eh bien, quelle est la raison fondamentale de cette algarade
là ? On n'allait pas chercher d'idéologie là-dessous. Hein. Ces deux hommes, également brutaux et dominateurs, ne peuvent tout simplement pas cohabiter.
Il y en a un trop, quoi.
Voilà. Alors, pour se justifier, ils invoquent leur position vis-à-vis de la Syrie.
Pour ou contre ?
C'est ça. Et c'est si vrai que le discours de Jaja, devenu brusquement anti-syrien, trouve des échos chez les chrétiens.
C'est pour cette raison qu'il triomphe de son rival ?
Oui, simultanément, le poison de la division gagne tous les camps. Les alliés d'hier deviennent soudain des ennemis.
Et la Syrie souffle sur les braises ?
Ouais, naturellement, comme Hafez al-Assad n'a pas réussi à imposer sa paix, il alimente les ferments de division.
Mmh. En espérant qu'un jour, on reviendrait vers lui pour demander son intercession.
Oui. Non, je ne vais pas énumérer tous ces conflits, ça serait fastidieux. Sachez seulement que les miliciens chiites disputent aux Palestiniens le contrôle des camps du sud de Beyrouth. Ce qu'on va appeler la guerre des camps et qui va durer de très longs mois. 30 mois même pour le camp de Bosh al-Barani. Inutile de vous dire que le bilan humain est catastrophique.
C'est donc plus que jamais le chaos.
Et Damas en profite pour pousser ses pions. Les troupes syriennes s'interposent entre les miliciens druzes et les chiites d'Amal et prennent position autour des camps palestiniens, ce qui ne va pas sans difficulté. L'autre camp chiite, le Hezbollah, résiste.
Ouais, le Hezbollah qui est inspiré par l'Iran.
Et des heurts sanglants opposent ces miliciens aux forces syriennes.
Alors là, maintenant, c'est l'Iran contre la Syrie.
Et ce sont les Libanais qui font les frais de ces rivalités. C'est particulièrement vrai au sud Liban, où les Israéliens se sont repliés dans leur zone de sécurité.
Repli tactique.
Surtout exigé par l'opinion publique israélienne, qui juge de plus en plus sévèrement l'aventure libanaise de son armée. Mais le Hezbollah profite aussitôt de ce retrait pour s'imposer et éliminer progressivement ses rivaux du mouvement Amal. Désormais, ce sont ces miliciens pro-iraniens qui harcèlent les Israéliens et leurs alliés de l'armée du Liban Sud.
Mais au milieu de ce désordre organisé, c'est bien ça, est-ce que le Liban est encore dirigé ?
Vous voulez dire, est-ce que les institutions politiques existent encore,
ça ?
Eh bien oui, il y a toujours un président de la République, Amin Gemayel, qui se démène tant bien que mal et essaie de quémander l'aide internationale. Il y a même une assemblée législative formée de députés élus en 1972, je crois.
Oui, 72, ouais. Et est-ce qu'il leur arrive de se réunir ?
Difficilement, mais effectivement, parfois, ils se réunissent. Cependant, que peuvent-ils faire ? Pas grand-chose. Enfin, il existe un gouvernement, même si les démissions de premiers ministres ne cessent de se succéder. Toutefois, en 1987, Le premier ministre nommé par Gemayel est alors Rachid Karamé.
C'est un sunnite, hein,
bien sûr. Oui. Et cet homme, qui a déjà exercé à plusieurs reprises la fonction de premier ministre, est peut-être le dernier espoir du Liban.
Pourquoi ?
Bon, parce que c'est un politicien particulièrement habile, qui est sans doute le seul à pouvoir amorcer une réconciliation. Il envisage même de reconstituer l'armée qui est déchirée depuis si longtemps. Mais c'est une tâche quasi impossible. Et en désespoir de cause, Karamé fait appel à Damas.
Un de plus.
Et un nouveau choc pour les Libanais.
Et cette fois, alors, qui étaient les assassins ?
Les phalangistes de Jaja. Ce dernier sera d'ailleurs plus tard condamné à la prison à vie pour avoir commandité cet assassinat. Ouais.
Jaja qui joue donc la politique du pire.
Oui, ce n'est pas trop surprenant. Peut-être espère-t-il, comme Béchir Gemayel autrefois, apparaître comme l'homme fort capable de s'imposer et de tenir la dragée haute au président Hafez al-Assad. Ce n'est pas ça le plus étonnant. Dans ce pays déchiré où l'insécurité est permanente et qui est largement occupé par des forces étrangères, la fièvre gagne tous les milieux politiques.
Mais de quoi s'agit-il ?
Ah ben c'est assez inimaginable, mais il s'agit de la future élection présidentielle.
8 mois avant de quitter le pouvoir, au début de 1988, le président Amin Gemayel publie un livre, « L'offense et le pardon », une sorte de testament politique extrêmement lucide. J'en extrais ces quelques lignes. Le gouvernement, détenteur du pouvoir exécutif et pièce maîtresse de l'action politique, est réduit à l'impuissance. Victime de tous les éloignements et divisions du Liban, le gouvernement a cessé de se réunir, les concertations téléphoniques, les dialogues par personnes interposées, les envois de messages se poursuivent, tandis que la pérennité de la présidence de la République permet certes d'éviter une paralysie totale. Mais tous les procédés utilisés, si ingénieux soient-ils, ne peuvent remplacer l'exercice normal du pouvoir. L'armée, quant à elle, a toujours été l'un de mes soucis majeurs, puisque notre souveraineté ne peut être rétablie qu'au prix de la renaissance de nos forces militaires. Je me suis attelé à cette tâche durant les 2 premières années de mon mandat, avant que les forces centripètes à l'œuvre ne viennent faire éclater l'armée en différentes brigades. Il n'y a rien de plus tragique, en effet, pour un État et pour son chef, que de manquer de la force militaire nécessaire pour faire régner l'ordre, imposer la loi et sauvegarder l'intégrité du territoire national. Que des brigades confessionnelles soient les seules à tenir lieu d'armée nationale, voilà l'aberration, voilà le drame.
Alors, le milieu politique libanais s'agite en dépit de la situation dramatique du pays. Hein. Et quels sont les candidats éventuels à l'élection présidentielle ?
Ah bah tous des chrétiens. On ne peut pas en être autrement selon le pacte national de 1943, vous en souvenez. Et bien que ce poste soit particulièrement exposé, ils sont nombreux à faire acte de candidature. Parmi eux, il y a le vieux Soleiman Frangier. Mais aussi un exilé, Raymond Hédé, très anti-syrien et farouche partisan de l'indépendance de son pays. Et puis, il y a le général Michel Aoun.
Ah oui, Aoun qui va jouer un rôle essentiel dans la suite des événements.
Oui, naturellement, le candidat doit recevoir l'intronisation de la Syrie, mais aussi des États-Unis. Car les Américains, après s'être longtemps désengagés, s'intéressent à nouveau au Liban. Et puis, disons-le tout de suite, ils continuent à considérer que la Syrie intervient plutôt positivement au Liban. D'ailleurs, il faut le souligner, 3 ans plus tard, la Syrie se rangera aux côtés de la coalition lors de la première guerre du Golfe.
Oui, contre Saddam. Alors, ça veut dire que le futur président doit être aussi agréé par Washington.
Bah, à mon avis, c'est préférable. Et aucun des 3 candidats dont je vous ai parlé ne trouve grâce auprès des Américains et des Syriens. Frangier, parce que c'est un ennemi du clan Gemayel. Hédé, parce qu'il est hostile à Damas. Et Aoun, parce qu'on soupçonne ce général d'ambition bonapartiste. Donc on va se rabattre sur un 4e homme. Un certain Mikhail Al-Daher.
Alors, c'est quoi? C'est un choix neutre, hein? Mais attendez, quand même. Pardonnez-moi de revenir en arrière, mais c'est quand même bizarre, cette connivence entre Damas et Washington.
Ah, pas tant que ça. Certes, la Syrie a longtemps flirté avec Moscou, mais à la Maison-Blanche, on estime qu'il est tout à fait envisageable que Damas se rapproche de l'Ouest.
Mais surtout à un moment, enfin, la fin des années 80, hein, où le camp de l'Est commence à flageoler sérieusement.
Oui, c'est certain. Enfin, je poursuis. L'affaire présidentielle traîne. Chacun tire à U, à Dia, enfin, je vous passe les détails. En tout cas, à la fin de l'année 1988, le président sortant, Gemayel, doit prendre une décision. Et pour diriger au moins provisoirement le pays, il nomme un gouvernement militaire composé de 3 chrétiens et de 3 musulmans, sous l'autorité du général Aoun. Mais les musulmans se désistent aussitôt. Et en face, sous la pression syrienne, un autre gouvernement est formé par le premier ministre sortant, le sunnite Selim Hoss.
Alors, si je résume, il n'y a pas de président de la République, mais il y a deux gouvernements.
Exactement. Le Liban, malgré la guerre, malgré l'occupation étrangère, n'a encore jamais connu une telle crise institutionnelle.
Que peut-il se passer, là ?
Aoun, qui estime être légitime, ne perd pas de temps et passe à l'offensive. Avec ce qu'il reste d'armée libanaise, il s'attaque au nerf de la guerre.
C'est-à-dire, là ?
Ces ports privés, dont nous avons déjà parlé, souvenez-vous, et qui permettent à toutes les milices de percevoir des droits de douane et surtout de se livrer au très florissant trafic de drogue.
Il veut donc les asphyxier en les privant de ressources.
Oui, bien qu'il soit lui-même maronite, il n'hésite pas à s'en prendre aux forces libanaises de Jaja, qui multiplient les exactions. Ce qui lui vaut, il faut le noter, une sympathie certaine chez les musulmans de Beyrouth Ouest.
Et comment, alors, réagit la Syrie ?
Damas, bien entendu, ne reconnaît pas le gouvernement d'Aoun et riposte à sa façon en bombardant les positions de l'armée libanaise. Le général réplique en déclarant qu'il lance la guerre de libération.
Libération, c'est-à-dire la guerre contre l'occupation syrienne.
Oui, et en même temps, il lance un appel à l'aide en direction de la communauté internationale.
Un appel entendu ?
Non, pour l'ONU, il s'agit d'un conflit purement intérieur. Quant à François Mitterrand, il a beau répondre en lançant lui aussi un appel en faveur du Liban, ce ne sont que des mots. Seul, Saddam Hussein réagit favorablement en promettant son aide.
Oui, mais il ne le fait que parce qu'il est hostile à Fayez al-Assad.
Bien sûr. Et la situation militaire du général Aoun, retranché dans le palais présidentiel de Baabda, devient de plus en plus difficile. Car les bombardements syriens sont incessants. Et au bout de 6 mois de siège, il est contraint de demander un cessez-le-feu. Et c'est alors que la diplomatie arabe, impuissante jusque-là, va enfin faire la preuve de son efficacité.
Mais comment ?
Un comité tripartite, Arabie Saoudite, Maroc, Tunisie, multiplie les contacts entre les différentes factions. Et dès cette époque, Rafik Hariri émerge.
Comme quoi, conciliateur ?
Oui, il est très actif. Et son entregent lui vaudra d'occuper plus tard plusieurs fois le poste de Premier ministre. La France aussi semble sur le point d'agir. Et on voit une flotte importante au large des côtes libanaises.
La paix semble s'approcher.
On s'achemine vers la conférence de Taïf, qui se tient en Arabie Saoudite en septembre 1989. Sous le patronage des Saoudiens, 58 des 62 députés élus en 1972 parviennent enfin à se réunir.
C'est presque un miracle.
En effet, oui. Et en l'espace de 3 semaines, ces députés, en dépit du fait qu'ils ne sont plus très représentatifs, vont parvenir à la rédaction d'un document d'entente nationale.
Oui, ça c'est les accords de Taïf, c'est ça. Oui,
auxquels se réfèrent toujours un certain nombre de dirigeants libanais.
Surtout les prochains.
Évidemment, oui.
Alors, rapidement, qu'y avait-il dans ces accords ?
Le premier principe, c'était l'égalité entre musulmans et chrétiens. Ensuite, il était prévu un abandon progressif du confessionnalisme politique, un certain nombre de réformes et la dissolution des milices. Enfin, et ce devait être l'article le plus important, ces accords reconnaissaient la souveraineté de l'État libanais sur l'ensemble de son territoire.
Oui, donc la fin de l'occupation par les forces étrangères israéliennes et syriennes.
Israéliennes, sans aucun doute. Syriennes, c'était beaucoup plus ambigu. À Taïf, les députés ont mis l'accent sur les relations fraternelles, privilégiées qui devaient s'établir entre les deux pays. Et il était noté que la Syrie devait aider les forces libanaises à restaurer l'autorité de l'État.
Ouais. Bref, il était permis aux troupes syriennes de demeurer au Liban.
Et au bout de 2 ans, il était prévu qu'elles se regroupent dans la plaine de la Bekaa.
Mais leur départ effectif, alors
On en discuterait plus tard.
Alors, vous avez raison de parler d'ambiguïté. J'imagine que c'était parfaitement inacceptable pour un homme comme le général Aoun.
Parce qu'il considérait que Taïf consacrait l'emprise syrienne sur le Liban.
Après 14 ans de guerre, Hafez al-Assad venait donc de gagner.
On peut le penser. Aoun conteste donc Taïf, et dans la foulée, il conteste aussi l'élection présidentielle qui suit. D'ailleurs, il annonce la dissolution de la Chambre des députés.
Qui est élu alors ?
René Mouawad. 3 semaines plus tard, il est assassiné.
Encore
un attentat, oui, à la voiture piégée. Peut-être perpétré par des partisans du général Aoun.
Oui, ça me semble en tout cas assez logique.
Un autre chrétien, Elias Khaoui, lui succède aussitôt. Ce nouveau président révoque Aoun et nomme à sa place le général Laoud.
Qui est l'actuel président de la République.
Et Aoun n'accepte pas sa destitution et entame la résistance, toujours retranchée dans le palais présidentiel de Baabda. La suite, vous la connaissez. Aoun subit d'abord les coups des milices chrétiennes de Jaja.
Une guerre entre chrétiens.
Et ces affrontements interchrétiens sont d'une extrême violence. Puis comme Aoun résiste toujours, le gouvernement libanais se tourne vers la Syrie et lui demande, secrètement, de passer à l'action contre le général rebelle.
Et encore une fois, bien sûr, Hafez el-Assad s'empresse.
Et il le fait d'autant plus tranquillement qu'il a les mains libres maintenant.
Que voulez-vous dire ?
Le président syrien a pris fait et cause pour la coalition dressée contre Saddam Hussein après son invasion du Koweït. Il sait donc que les Occidentaux n'interviendront pas contre lui au Liban.
Mmh. Alors Aoun va donc succomber à cause de la guerre du Golfe ?
Et grâce à Saddam Hussein, c'est la vérité, oui. En octobre 90, l'aviation syrienne bombarde le palais de Baabda. Pour épargner des vies, Aoun se rend et trouve refuge à l'ambassade de France.
Ouais, ensuite, il sera accueilli chez nous.
Oui, on lui demandera assez fermement de s'abstenir de toute activité politique.
Alors, a-t-on, enfin, comme plusieurs intellectuels français l'ont prétendu, sciemment lâché le général Aoun ?
La France, vous voulez dire ?
Ah oui.
Sans doute, mais honnêtement, que pouvait faire la France ? Paris, comme la plupart des autres capitales, a applaudi aux accords de Taïf. Car il y avait enfin un espoir de paix.
Au prix, quand même, de la subordination du Liban à la Syrie.
Bon, je suis d'accord. Enfin, il fallait quand même en finir avec cette interminable guerre civile. Et qu'on le veuille ou non, il faut bien reconnaître que les Libanais ont cessé de s'entretuer. Et si les chrétiens ont perdu une grande partie de leur influence, ils le doivent non pas à la mise à l'écart du général Aoun, mais au faux pas de 1992, lorsqu'ils ont refusé de participer aux élections législatives. Toutefois, les récents événements peuvent laisser espérer un ressaisissement et surtout, pour la première fois, d'un renoncement au confessionnalisme politique.
La longue guerre du Liban, qui a commencé il y a tout juste 30 ans, a-t-elle été une guerre de religion ? Elisabeth Picard, chercheuse au Centre d'études et de recherche internationale, s'inscrit en faux et dans une interview à Télérama en 1994, elle déclare, je la cite, il faut faire la distinction entre les appartenances religieuses et le fait communautaire comme base du système politique libanais. Des sunnites, des chiites, des maronites, des druzes, des grecs orthodoxes, etc., siègent à la Chambre des députés comme représentants de leur communauté. Ces appellations religieuses ne signifient pas du tout qu'ils sont défenseurs de croyances qui voudraient s'éradiquer mutuellement. Elles signifient que l'on est chiite, maronite, druze, et c'est sur cette identité que sont fondés les rapports sociaux et politiques. La guerre de religion au Liban est vraiment un masque. Et à la question, chaque Libanais ne peut donc se définir que par son appartenance à telle ou telle communauté ? Elisabeth Picard répond, oui, puisque l'on ne peut pas exister en dehors d'elle. Mais l'appartenance à une communauté au Liban signifie à la fois tout, et pas grand-chose. Tout, parce qu'on ne peut pas faire des affaires, on ne peut pas trouver un travail, on ne peut pas se marier, etc., sans l'aide et le contrôle de sa communauté. Mais pas grand-chose parce que chaque personne, chaque petit groupe, peut faire des choix sociaux, idéologiques, culturels, différents. Dans toutes les communautés, il y a des pauvres et des riches, des gens de droite et des gens de gauche, et des affrontements.